que le journal est présenté par Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir. Christophe Castaner a-t-il parlé trop vite en dénonçant une attaque de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris ? Une vidéo contredit les propos du ministre de l'Intérieur. Nous ferons le point avec Claire Flochel dans un instant. Emmanuel Macron et Sergio Mattarella ensemble sur la tombe de Léonard de Vinci à Amboise pour sceller l'amitié franco-italienne. À Chambord, les deux présidents ont multiplié les gestes symboliques. Nous retrouverons sur place Louise Baudet. Le projet de loi Notre-Dame adopté en commission à l'Assemblée, un texte qui doit permettre la reconstruction rapide de la cathédrale, mais qui fait polémique chez les experts du patrimoine. Nous verrons cela avec Cécile de Kervas-Doué. Donald Trump multiplie les sanctions économiques contre ses ennemis étrangers. De nouvelles mesures contre l'Iran et Cuba entrent en vigueur aujourd'hui. La correspondance à Washington de Grégory Phillips. Enfin, le dossier de ce journal sera consacré à un chantier naturel qui se veut exemplaire. La restauration écologique de la rivière Yvette en vallée de Chevreuse. Un dossier proposé par Lauriane Havard. Que s'est-il passé hier à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en marge de la manifestation parisienne du 1er mai ? Dès hier soir, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'était rendu sur place pour dénoncer une attaque contre le service de réanimation, attaque perpétrée par des Black Blocs selon le ministre. Personne n'a été blessé, mais la classe politique presque unanime a condamné l'intrusion dans un hôpital, à l'exception de Jean-Luc Mélenchon qui lui accuse Christophe Castaner de mentir aux Français. Bonsoir Claire Flochet.
Bonsoir Stanislas, bonsoir à tous.
Plusieurs vidéos et témoignages remettent en cause la thèse d'une attaque de la Pitié-Salpêtrière par des radicaux. En revanche, il y a bien eu un mouvement de foule qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.
C'est en particulier une vidéo partagée depuis quelques heures sur les réseaux sociaux qui aide à mieux interpréter ce qu'il s'est passé hier à l'hôpital de la Salpêtrière. Une vidéo diffusée sur des pages Facebook ou Twitter de soutien aux Gilets jaunes. Les images ont été tournées à l'intérieur du service réanimation, vraisemblablement par un agent hospitalier. On voit les manifestants pris dans un mouvement de foule forcer la grille de l'hôpital et entrer dans la cour de l'établissement. Certains portent un gilet jaune. Puis une trentaine d'entre eux, pour fuir des CRS, se dirigent en courant vers une passerelle qui mène directement au service réanimation. Les personnels soignants leur en interdisent alors l'entrée et maintiennent la porte fermée.
Il y a des malades, c'est sérieux? Non, non. C'est la réanimation, c'est la réanimation, c'est la réanimation, on ne peut pas.
La scène dure 2 minutes jusqu'à ce que les CRS évacuent les manifestants de la passerelle dans le calme. Des images qui correspondent à la version des faits que nous a raconté ce midi Jérôme Legrec, infirmier dans ce service réanimation.
Il n'y avait rien de violent, en tout cas envers nous. On arrivait à discuter avec les gens même à travers la vitre et petit à petit les gens ont très bien compris. Ils tombaient dans un service un petit peu de réanimation et ils sont redescendus. C'était plus un état de panique, de la peur de se faire taper, de recevoir quelque chose de la police qu'une attaque. Au final, tout s'est passé très calmement.
La ministre de la Santé n'a d'ailleurs pas repris ce terme d'attaque prononcé dès hier soir par le ministre de l'Intérieur. Agnès Buzyn, venue rencontrer les soignants dans leur service ce midi, s'est montrée beaucoup plus prudente. Elle a salué le sang-froid du personnel hospitalier et a dit attendre les conclusions de l'enquête pour se prononcer.
Claire Flochel, merci. Effectivement, le parquet de Paris a ouvert une enquête sur l'incident de la Salpêtrière. 32 personnes sont toujours en garde à vue pour attroupement en vue de commettre des dégradations ou des violences. 500 ans jour pour jour après sa mort, Léonard de Vinci devient un symbole de l'amitié franco-italienne. Emmanuel Macron a reçu aujourd'hui à Amboise son homologue italien Sergio Mattarella. C'est là, dans le château du Clos-Lucé, que le génie de la Renaissance a rendu son dernier souffle en 1519. Les deux chefs d'État se sont recueillis ce matin sur la tombe de Léonard. Ils sont actuellement au château de Chambord en compagnie de jeunes Français et Italiens. Chambord où l'on retrouve Louise Baudet, bonsoir.
Bonsoir Stanislas.
Louise, Emmanuel Macron et Sergio Mattarella ont multiplié les gestes symboliques pour afficher leur bonne entente, histoire peut-être de dissiper la brouille franco-italienne née de l'arrivée au pouvoir des populistes à Rome. Louise Baudet, êtes-vous toujours avec nous en direct de Chambord ? Louise Baudet, en direct de Chambord, je crois qu'on vous a perdu, à moins que vous soyez peut-être en ligne. Eh bien, je crois que la liaison a été interrompue. Ben, je vous propose de continuer ce journal avec le Louise Baudet, peut-être êtes-vous avec nous ? Non, je crois pas. Justement, ce château du Clos-Lucé où ont déjeuné Emmanuel Macron et Sergio Mattarella est au cœur d'une enquête préliminaire ouverte par la justice à la demande du ministère de la Culture. En cause, la rénovation de plusieurs pièces qui auraient abouti à la destruction d'éléments classés monuments historiques. Cette question de la restauration des monuments classés est d'ailleurs au cœur du projet de loi Notre-Dame examiné aujourd'hui à l'Assemblée en commission. Bonsoir Cécile de Carvazdoué.
Bonsoir.
Le texte répond à l'engagement d'Emmanuel Macron de reconstruire Notre-Dame de Paris en 5 ans. Un empressement, Cécile, qui inquiète à la fois les députés de l'opposition et de nombreux experts du patrimoine.
Oui, ce qui les inquiète, c'est l'article 9 du projet de loi qui permet des dérogations au code du patrimoine. La majorité a promis ce matin de réécrire cet article, mais maintient qu'elle a besoin de s'affranchir des règles pour aller plus vite pour la reconstruction. Pour beaucoup d'experts, c'est la porte ouverte au dérapage, alors que de nombreux monuments classés subissent déjà des destructions du type de celle du Clos-Lucé, où les propriétaires, la famille Saint-Brie, ont détruit des salons du XVIIIe siècle pour reconstruire des pièces dans le style Léonard de Vinci. Mais tout ça, c'est du faux, c'est du toc, dénonce l'historien de l'art Didier Rickner dans sa publication sur Internet La Tribune des Arts.
Ça parle du sensationnalisme en fait. Léonard de Vinci est une figure mythique, donc on attire le public avec Léonard de Vinci, comme d'ailleurs à Versailles, on l'attire avec Marie-Antoinette. Il y a des figures mythiques et on essaye de faire venir les gens comme on les ferait venir dans un luna-park. Mais le patrimoine, ce n'est pas cela. Le patrimoine, c'est toutes les époques, le patrimoine, c'est l'authenticité. Reprenons Notre-Dame, il y en a certains qui disent finalement la flèche de Viollet-le-Duc, elle n'existait pas avant. Ça, c'est une grande mode de notre époque qui veut que on veut revenir à un état de pureté, ce qui est absolument contraire à toutes les règles. Au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, on faisait ce qu'on voulait sur les monuments, il n'y avait pas de protection. Mais depuis, on a évolué, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'une restauration ne doit pas se faire en modifiant ce qui existait, mais en conservant le dernier état historique connu. Donc rien n'empêche de faire du moderne, mais on le fait ailleurs. En tout cas, on ne détruit pas un monument historique.
Mais ces règles ne sont pas forcément connues des législateurs. Lors du débat en commission à l'Assemblée ce matin, la rapporteure du projet de loi Notre-Dame, Anne Bruniera, répondait à une question. Faut-il reconstruire Notre-Dame à l'identique ? Mais quel identique, a-t-elle répondu ? Le Moyen-Âge, le 18e, le 19e ?
Cécile de Carvazdoué, merci. Eh bien, je vous propose de retourner à Chambord pour retrouver Louise Baudet. Louise Baudet, êtes-vous avec nous ?
Oui, tout à fait, je suis là, Stanislas.
Alors, Louise, je le disais, Emmanuel Macron et Sergio Mattarella se sont retrouvés tout à l'heure à Chambord pour sceller l'amitié franco-italienne.
Oui, ils ont multiplié les symboles. Ce sont d'abord deux bouquets de lys blancs déposés sur la tombe de Léonard au château royal d'Amboise. Ce sont ensuite une visite et un déjeuner privé au château du Clos-Lucé, dernière demeure du génie toscan. Puis à Chambord, la descente du double escalier à Révolution inspirée de ces plans pour retrouver au rez-de-chaussée 500 jeunes dont les enfants du cœur de la Scala de Milan. Va pensiero, air célèbre du Nabucco de Verdi, presque un hymne national pour sceller la réconciliation franco-italienne après la brouille de ces derniers mois, quoi qu'en dise Sergio Mattarella.
Il n'y avait pas besoin de faire la paix. Les liens entre la France et l'Italie sont tellement solides et profonds. Ils ont toujours été extraordinaires. Cette relation est la meilleure possible. Et l'amitié entre nos deux pays, reconfirmée aujourd'hui par le président Macron et moi, c'est une amitié à toute épreuve.
Et pour célébrer cette amitié, quoi de mieux que l'histoire et la figure de Léonard de Vinci ?
Ce temps de la Renaissance a été un temps extrêmement fort de l'amitié entre l'Italie et la France. Un génie de la Renaissance est venu finir ses jours en France à l'invitation d'un jeune roi français. C'est l'intelligence et le meilleur, entre autres, de nos deux pays qui ont su se mettre ensemble. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs le lien qu'il y a entre nos pays et entre nos citoyens est indestructible.
Sans oublier la référence à l'actualité et à une échéance très politique.
Dans les grands moments de notre histoire, c'est la circulation des génies, des grands artistes, de celles et ceux qui portent un universalisme en même temps que des goûts très particuliers qui a fait notre Europe. Et au moment où nous avons à réfléchir à l'Europe et à construire son avenir, c'est aussi se souvenir que notre Europe est faite d'abord et avant tout de valeurs, de cultures, de destins croisés et que cette culture est un passé mais elle a aussi beaucoup d'avenir.
Voilà, Léonard était européen et franco-italien. Oubliez la brouille diplomatique mais aussi artistique, cette menace du gouvernement italien de ne plus prêter les tableaux du maître toscan au Louvre pour sa grande rétrospective d'octobre. Aujourd'hui, l'Élysée assure que tout est pour le mieux. Reste à s'assurer que les conservateurs italiens se sépareront d'œuvres qu'ils jugent intransportables. Nul doute que ces jours-ci, la pression politique est maximale.
Louise Baudet en direct de Chambord avec Jean-André Giannichini pour les moyens techniques. Il n'y a pas que le projet de loi Notre-Dame qui inquiète l'opposition. Il y a aussi le projet de loi Blanquer pour une école de la confiance. Le Sénat où la droite est majoritaire, examinera le projet dans 15 jours. Bonsoir Hakim Kasmi.
Bonsoir Stanislas Vazak.
Les sénateurs examineront en fait une version largement remaniée par la commission éducation.
Oui, d'ordinaire dans la réserve, les sénateurs ne mâchent pas leurs mots contre ce projet de loi qu'ils qualifient de fourre-tout, qui manque de sens et de concertation. Un mécontentement qui se traduit par la suppression pure et simple de l'article 6 qui concerne les regroupements des collèges avec les écoles primaires. Alors même si Jean-Michel Blanquer a indiqué qu'il se ferait sur la base du volontariat, cet article doit être complètement réécrit et rediscuté, estime Max Brisson, le rapporteur de la loi au Sénat.
Regroupement ne signifie pas qu'on fait disparaître des écoles. Le regroupement, il peut être administratif, il peut être pédagogique. Si on regroupe sur un territoire en déperdition rurale, un collège et des écoles, on crée de la synergie, on renforce l'offre pédagogique. Mais ce qui est mauvais dans le projet de loi Blanquer, c'est que c'est tombé d'en haut, qu'on a mis l'outil avant l'objectif. L'objectif, c'est de la mise en réseau sur des territoires où c'est nécessaire. C'est certainement pas nécessaire dans Paris. Mais moi, qui suis un élu des Pyrénées, je peux vous dire que dans certaines vallées pyrénéennes qui sont en crise démographique, on a des collèges qui ont moins de 100 élèves. Ça pourrait être utile pour renforcer l'offre pédagogique.
Les membres de la commission du Sénat ont également apporté de nombreux amendements. Les jeunes professeurs débutants devront avoir obligatoirement de la formation pendant leurs 3 premières années d'enseignement. Enfin, plus polémique, les proviseurs et les principaux auront un droit de regard sur les affectations dans leurs établissements.
Hakim Kasmi, merci. C'est le 14 mai que ce projet de loi Blanquer sera examiné en séance publique au Sénat. Au chapitre économique, c'est le soulagement ce soir pour les 270 salariés d'Ascoval à Saint-Saulve dans le Nord. Le tribunal de Strasbourg a validé la reprise de l'aciérie par le britannique British Steel, le repreneur qui s'est engagé à ne supprimer aucun emploi. Isabelle Balkany, hospitalisée après une tentative de suicide, la femme du maire de Levallois-Perret, Patrick Balkany, dont elle est la première adjointe, a avalé des médicaments hier soir dans sa maison de Giverny, dans l'Eure. Le procès du couple Balkany doit débuter le 13 mai prochain à Paris. Isabelle et Patrick Balkany doivent être jugés notamment pour corruption et blanchiment de fraude fiscale. Les États-Unis de Donald Trump renforcent leurs sanctions économiques contre deux pays jugés hostiles, l'Iran et Cuba. À partir d'aujourd'hui, Washington supprime son régime d'exemption pour les 8 pays alliés qui continuaient à acheter du pétrole iranien. Et sur le dossier cubain, l'administration Trump va appliquer la loi Helms-Burton. Il s'agit d'un texte de 1996, jamais utilisé, qui sanctionne les entreprises qui font commerce avec les sociétés nationalisées par le régime castriste. Bonsoir Grégory Phillips.
Bonsoir.
En direct de Washington, Donald Trump utilise donc l'arme de la sanction économique pour faire plier ses ennemis à l'étranger.
Oui, que ce soit contre Cuba, contre l'Iran, contre le Venezuela ou précédemment contre la Corée du Nord, c'est vrai que les sanctions économiques sont devenues l'arme, le bâton préféré de cette administration Trump. À chaque fois, ce sont des décisions unilatérales et ce n'est pas très surprenant de la part d'un président protectionniste, isolationniste et qui, comme slogan de campagne, utilisait le fameux « America first », l'Amérique d'abord. Donc ces sanctions sont prises ici à Washington, un, dans l'intérêt premier des Américains, c'est en tout cas ce que dit la Maison Blanche, ou deux, parce que l'administration pense que le poids de ces sanctions peut pousser vers un changement de régime dans certains de ces pays. On pense là au Venezuela ou à Cuba, et parfois ces sanctions fonctionnent. La Corée du Nord, par exemple, on l'a vu dans le passé, a cessé ses essais nucléaires, du moins pour l'instant, face à la pression et face aux sanctions américaines.
Grégory, le revers de la médaille, c'est que ces sanctions décidées à Washington peuvent faire l'objet de représailles commerciales notamment.
Oui, parce qu'on l'a dit, ces décisions américaines sont prises sans concertation, de manière absolument unilatérale, au risque de froisser des pays alliés. On le voit avec cette loi Helms-Burton sur Cuba, où les entreprises européennes qui commercent avec la Havane vont sans doute être touchées, sanctionnées. Et donc il y a un risque de représailles commerciales notamment, mais ça, l'administration Trump l'ignore, ou en tout cas fait mine de l'ignorer. Encore une fois, d'abord l'intérêt, c'est l'Amérique d'abord.
Grégory Phillips, correspondant aux États-Unis. Merci. Le régime vénézuélien, qui fait aussi partie des ennemis jurés de Donald Trump, le président américain, appelle ce soir à la fin de la répression brutale au Venezuela. À Caracas, l'opposant Juan Guaido n'a pas réussi à rallier à sa cause l'armée. Il appelle désormais à la grève générale. Le président Maduro, lui, appelle les militaires à combattre tous les putschistes. Au Bénin, l'armée et la police ont fait feu aujourd'hui sur des centaines de partisans de l'ancien président Boni Yayi, qui entourait la résidence de l'opposant. Selon des témoins sur place, l'intervention aurait fait au moins 3 morts. Ces incidents interviennent alors que la commission électorale béninoise vient de rendre les premiers résultats des élections législatives marqués par un fort taux d'abstention. Des résultats contestés également par l'opposition, Nathanaël Charbonnier.
La situation est plus qu'explosive au Bénin, d'autant que tous les ingrédients sont réunis. Le pays sort d'élections législatives contestées. Il faut dire que l'opposition n'a pas eu le droit d'y participer, que le taux de vote est en dessous de 25% et qu'à l'arrivée, les 83 sièges du Parlement sont censés revenir aux deux partis qui soutiennent le président Patrice Talon. Un président élu démocratiquement en 2016, mais qui semble d'ores et déjà vouloir s'accrocher au pouvoir avec tous les moyens qu'aiment utiliser les dictateurs. Opposition brimée, coupure des liaisons Internet, intimidation des journalistes et recours à la force pour ramener le calme. Dès la semaine dernière, l'inquiétude était de mise, puisque l'ex-chef de l'État s'était exprimé pour demander au président d'interrompre le processus électoral et à la population béninoise de se soulever dans un sursaut patriotique. Parallèlement, l'Union européenne embarrassée avait décidé de suspendre sa délégation d'observateurs, comme pour dire qu'elle n'entendait pas cautionner les élections qui s'annonçaient. Enfin, Amnesty International et de nombreuses associations locales de la société civile avaient dénoncé bien avant les incidents de ce jeudi un niveau de répression alarmant.
Nathanaël Charbonnier, au Soudan, les leaders de la contestation organisent aujourd'hui une nouvelle mobilisation massive à Khartoum. Objectif, rassembler 1 million de personnes pour contraindre le gouvernement militaire à remettre le pouvoir aux civils. Et cela 3 semaines après la destitution du président Omar El-Béchir. Retour en France pour le dossier de la rédaction qui nous emmène ce soir dans la vallée de Chevreuse, à 40 kilomètres de Paris. Au milieu de cette vallée coule l'Yvette, une rivière qui fait l'objet d'un important chantier de restauration écologique, 1,9 million d'euros pour préserver la biodiversité du site. Un chantier qui se veut exemplaire au moment où Paris accueille un sommet international sur la biodiversité. C'est un reportage de Lauriane Navarre.
Des pelleteuses à l'œuvre au bord de l'Yvette. On est loin de la carte postale, mais pour une fois, ces engins sont là pour et avec la nature. Jérôme Rosanski pilote le chantier. Il est ingénieur pour le SIAVI, le syndicat intercommunal pour l'aménagement hydraulique de la vallée de l'Yvette.
Là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'enlever un clapet. C'est un ouvrage mobile, une grande planche qui s'abaisse en fonction des différents niveaux d'eau. C'est ça qui faisait obstacle à la circulation, on va dire, piscicole, et aussi au transit sédimentaire. Le problème de ces ouvrages, c'est qu'ils ont tendance à favoriser les envasements en amont. Et ils ont aussi un impact assez désastreux en termes écologiques.
Depuis plusieurs années, le syndicat de l'Yvette a observé un appauvrissement de l'écosystème, les oiseaux, les insectes, la flore. Alors pour les réintroduire, il faut réveiller les anciens méandres du cours d'eau.
Là, ici, vous voyez, il y a 2 espèces de petites culées béton. Vous voyez qu'il y a une sorte de petit fossé.
De l'autre côté de
la rivière. Ça, c'est l'ancien lit de la rivière.
Donc, qui aujourd'hui n'est plus
alimenté. La rivière a été rectifiée probablement dans les années 70 ou 80. Et nous, ce qu'on va rechercher, c'est à refaire venir la rivière de son ancien lit. Sur le bras ici qui sera plus alimenté, on le réaménagera en frayère à brochet. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est de recréer ces habitats pour permettre justement que toutes les espèces piscicoles puissent se développer.
Une restauration écologique qui prend tout son sens. Les zones humides autour de l'Yvette font aussi partie du projet pour qu'elles retrouvent leur utilité première. Un rôle d'éponge, par exemple, pour prévenir les inondations. Un chantier global qui n'oublie personne.
Donc on a réétudié tous les sentiers pédestres avec l'université. Là, on est sur un campus en prenant en compte les périodes d'examen, etc. C'est que chacun, c'est de se mettre dans une position gagnant-gagnant.
Et les riverains, étudiants ou personnels de l'université, voient ces travaux d'un bon œil. Nathalie est enseignante-chercheuse sur le campus.
Je n'en pense que du bien, mes impôts peuvent aller dans ce genre de choses. Je suis pour la biodiversité et pour l'écologie, donc c'est excellent. Voilà, c'est de l'aménagement raisonné, c'est raisonnable, c'est très bien. L'homme, quand il pense ainsi, il va dans le bon sens.
Donc ici, on sera sur une partie de cheminement qui sera restaurée à la fin du chantier.
Pour les piétons, les cyclistes.
Cyclistes, normalement, les cyclistes seront envoyés plutôt côté voirie. Il y a des parties qui pourraient être communes, mais pas la totalité. L'idéal, ce serait revenir en juillet.
Juillet 2020, rendez-vous ici.
Oui, juillet 2020, et on aura, on va dire, les arbres ont été replantés. Et après, c'est le plan de gestion qui sera mis en place avec l'université.
Un chantier de restauration écologique qui doit perdurer dans le temps, futur terrain d'études pour les enseignants et les étudiants de l'Université Paris-Sud.
Voilà pour ce reportage de Lauriane Avard dans la vallée de Chevreuse. La météo demain sera fraîche et pluvieuse sur presque tout le pays. Seul le pourtour méditerranéen bénéficiera d'un temps sec et ensoleillé. Température minimale de 3 à 12 degrés du nord au sud. Les maximales seront comprises entre 12 et 21 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Jean-François Braun.